Bon, Bezrat Hashem, jour de soir, il va être donné pour la tzlacha de la famille Ada, en particulier de Raphaël et de son épouse, Bezrat Hashem, qu'ils aient beaucoup de nachat, ensemble, de leur progéniture, que tout le monde soit dans le Derech HaTorah, et ainsi que tous les convives ici présents, Bezrat Hashem, et l'ensemble du clan d'Israël. Alors bien sûr, ilou nishmat de tous nos défunts, l'élévation de l'âme de tous nos défunts, refouach shlema pour tous nos malades, comme ça le tour de la question a été fait. Ok, atzlacha rabba, et que Dieu protège nos bachori yeshivot, nos rabbanim et nos chayalim.
Amen.
Voilà, c'est... on peut commencer le jour. Alors, on voit comme ça, on voit qu'à Shavuot, c'est une fête qui est très particulière. On voit d'abord dans la Gemara, dans Masechet Chagiga d'Avav Amud Alef, là-bas on rapporte une machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Une machloquette qui est très connue. Une machloquette qui... Très bien, on va parler en bon français, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, donc il y a un débat dans le Talmud, dans le traité Chagiga, qui veut dire fête, d'accord ? Entre Rabbi Ishmael, je crois qu'on n'a pas besoin de traduire, et Rabbi Akiva. Bon, alors le débat entre eux, il est en ces termes. Pour Rabbi Ishmael, il estime qu'au moment du Matan Torah, sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, on voit que à Kadosh Baruch Hu, il aurait donné la Torah au sens général. Et après, les lois, dans leur sens particulier, ont été données par la suite, après le Matan Torah, durant le désert, quand Akadosh Baruch Hu appelait Moshe Rabbeinu au El Moed, d'accord ? Donc il y avait une tente particulière où la présence divine descendait, et Akadosh Baruch Hu convoquait Moshe Rabbeinu devant cette tente, et la voix de Dieu sortait de la tente pour parler avec Moshe Rabbeinu, pour lui enseigner les différentes lois et ordonnances divines. Donc on voit par rapport à ça, hein, que ça c'est ce qu'estime Rabbi Ishmael, il estime par la suite... que la Torah dans son ensemble a été donnée bien sûr dans le désert, mais par la suite dans les plaines de Moab. Et Baruch Hashem, et ainsi que devant le Ohel Moed. Donc, et pour Rabbi Akiva, c'est très différent. Pour Rabbi Akiva, la Torah a été donnée dans son ensemble, que ce soit au sens global, général, ou au sens particulier, ce qu'on appelle la Klalout et la Pratout. D'accord ? Donc, on voit ici... Je sais que normalement en hébreu moderne, on dit pratiyut, d'accord ? Mais dans le Talmud, ils disent pratout. Donc, on voit ici en réalité que pour Rabbi Akiva, la Torah a été donnée dans son ensemble au moment du Mahamad, du Har Sinaï, au moment où on s'est tous tenus debout devant le Har Sinaï. Alors, il faut bien comprendre que même pour Rabbi Akiva, si toute la Torah a été donnée au Har Sinaï, pour lui, alors comment il va expliquer ? Parce qu'il y a un pasouk qui nous dit Vaikra El Moshe, Vaidaber Hashem. Elav, Me'ohel Moed. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe Rabbeinu, d'accord, dans la Torah, Sefer Vaikra, chapitre 1, verset 1. Là-bas, on nous rapporte quoi ? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe Rabbeinu pour lui enseigner la Torah, devant l'Ohel Moed, comme on a dit, comme il dit Rabbi Ishmael. Et en fait, pour Rabbi Akiva, et on voit que dans les plaines de Moab, la Torah l'a été redonnée. Donc, on essaye de comprendre. Comment Rabbi Akiva il va essayer de s'arranger avec ça ? Rabbi Akiva il explique une chose, il dit la Torah elle a été donnée dans son ensemble sur le Har Sinaï. Malgré cela, il y a des enseignements qui ont continué à être donnés, et devant le Ohel Moed, et dans les plaines de Moab, pour, entre guillemets, revenir sur ce qui a été enseigné sur le Har Sinaï. Donc pour Rabbi Ishmael, le Har Sinaï, le Mahamad Har Sinaï, c'est une introduction aux lois de la Torah. Le développement va être fait durant la période passée, durant les 40 ans passés dans le désert. D'accord ? Et pour Rabbi Akiva, pas du tout. Toute la Torah a été donnée sur le Har Sinaï. Et durant 40 ans dans le désert, on va revenir sur toute la Torah qui a été donnée sur le Har Sinaï. Voilà, ça c'est la petite différence qu'il y a pour eux. Malgré cela, il faut bien comprendre que Rabbi Akiva dit quand même que le don de la Torah sur le Har Sinaï est très particulier. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que tout le monde sait que la fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Quel jour de l'année, quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a donné la Torah ? Le 6 Sivan. Quel jour de l'année, dans le calendrier hébraïque, tombe la fête de Shavuot ? Le 6 Sivan. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre à Shavuot ? Parce que c'est un nom particulier. C'est le don de la Torah. Aussi simple que ça. Alors, par rapport à ça, On va essayer de voir ensemble quelques points qui sont assez intéressants. On voit dans la Haggadah de Pessah quelque chose qui est magnifique. Il est dit là-bas, Hilu keravnu lifnei har Sinai velo natanu et haTorah dayenu. Je vous le fais avec l'air. Un petit peu plus. Alors je vous le fais avec l'air tunisien. Hilu keravnu lifnei har Sinai velo natanu et haTorah dayenu. D'accord. Donc on voit, c'est ce qu'on dit le soir de la lecture de la Haggadah au moment du Seder de Pessah. D'accord. Si Dieu nous avait rapprochés du mont Sinai. Il ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Ça veut dire toute l'histoire que nous, on est sortis d'Égypte maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette phrase, elle est terrible. Nous, on est sortis d'Égypte. Il y a eu les plaies en Égypte. On est sortis pour devenir un peuple, pour recevoir la Torah, pour entrer sur notre terre, sur la terre d'Israël. Je suis désolé, je parle fort.
Non,
si tu y viens. Je ne crie pas là, hein, là, je parle. Donc, donc on voit par rapport à ça, hein, qu'on nous dit que ça nous aurait suffi. Alors, si ça nous aurait suffi, ça veut dire quoi? La Torah, on n'en a pas besoin? C'est pas ça qu'elle veut dire, la phrase, exactement. On va développer. C'est pas ça qu'on veut dire. En réalité, pour mieux comprendre, d'accord, on voit que Kadosh Baruch Hu, comme il le précise, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, dans son Sefer Da'at Vunot, d'accord. Pour ceux qui étudient un peu, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui étudient ici, Baruch Hashem, c'est le Siman Kuf Nun Het Amud Kuf Ain, pour ceux que ça intéresse, il y a la référence. Là-bas, il nous rapporte en réalité qu'au moment du Mahamad Har Sinai, quand Dieu nous a rapprochés du Mont Sinai, il a cherché à nous préparer spirituellement pour pouvoir accomplir la Torah, et en accomplissant la Torah, d'avoir une influence sur la création. Il faut bien comprendre, il nous rapporte dans Maseret Psachim, Dav Kuf Yutret, il me semble là-bas, on nous rapporte là-bas que dans les Teilim, dans les psaumes, Kuf Lamed Vav, dans le livre des psaumes, le chapitre 136, on nous rapporte là-bas, c'est Odou Lachem Kitov Ki Leolam Chasdo, il y a 28 versets. On pourrait dire 28 versets, c'est la Gematria de Kohar, la force. Donc on remercie Dieu, c'est ce qui nous donne de la force. Ça pourrait être facile, c'est pas du tout ça. Rapport dans la Gemara, en réalité, qu'il y a eu 28 générations entre le Maboul jusqu'à. Excusez-moi, entre le Maboul, oui, jusqu'à la sortie d'Égypte. 28 générations. Ces 28 générations-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, elles ont été nourries par la main divine. Donc les gens ont tenu dans ce monde uniquement. Par volonté divine. La profusion dans ce monde ne s'est créée que par la seule volonté divine. À partir du Mahamad Har Sinai, tout a changé. Alors, pour bien comprendre, on va revenir à Bereshit. Alors, dans Bereshit, le livre de la Genèse, on nous rapporte là-bas quelque chose d'extraordinaire. Faut pas que je m'embrouille, hein. Bezrat Hashem. On voit là-bas qu'il y a le Nahash, le serpent, qui, au moment où Adam et Chava ont mangé le fruit interdit. Il est venu, il leur a dit que maintenant, ils étaient eux-mêmes devenus des dieux. Qu'ils étaient devenus eux-mêmes des dieux et qu'ils avaient la capacité à partir de ce moment-là. Attendez, je cherche. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. On voit dans Bereshit, dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, verset 5. Qui vada Elokim qui bayom achalchem mimenu. Vnifkechu enechem, vaitem ke Elokim yodea tovara. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Nahash, le serpent? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Adam et Ève? Il leur dit que maintenant Dieu il va savoir que vous avez mangé de lui, du fruit interdit. D'accord? Et que maintenant vous avez ouvert vos yeux, entre guillemets, picard, ça veut dire aussi intelligent, vous êtes devenu intelligent. Et que vous êtes devenu Ke'elokim, comme des dieux, Yodéa, Tov, Vara, comme Dieu qui connaît la différence entre le bien et le mal. C'est quand même fort. Rashi, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Vi'item Ke'elokim, vous êtes comme Dieu, Yotzre Olamot, vous créez des mondes. Qu'on nous parle. Nahash, il ne s'est pas trompé. Alors, pour mieux comprendre, on va revenir au Ramchal. Le Ramchal explique en réalité que durant le Mahamad d'Arsinaï, on a combien de temps? Bon, on voit que le Ramchal en réalité, lui, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique qu'au moment du Mahamad d'Arsinaï, il nous explique un klal. Il nous dit que Gadol a metsouvé veosé, mais Aino metsouvé veosé. Ça veut dire quoi? Que celui qui a ordonné de faire la Torah, il a un plus grand mérite que celui qui n'est pas ordonné de faire la Torah et qui l'accomplit. Tout simplement. Et là-dessus, on voit que le Ran, il rajoute quelque chose d'extraordinaire.
On n'est pas tous ordonnés de faire la Torah.
Hein?
C'est pour les femmes, par exemple.
Ah oui.
Enfin, pour les femmes, pour toutes les mitzvot qui sont au temple pour les femmes, c'est pour ça qu'on... Enfin, chez les femmes, on règne pour ça.
De quoi?
Gadol a mis chez VOC, c'est dans le rhinon des femmes,
oui.
On nous l'enseigne en disant que ça veut dire, mettons tout ce qui est mis vote il y a longtemps, chez les sfaradiotes, qu'on ne pas, qu'on voit pas les femmes.
Ah, c'est pas que j'ai. Bon, heureux qu'on a dit chez les sfaradiotes.
Je veux dire que c'est un enseignement sfarad, quoi, mais ça veut dire qu'en général, on nous dit que c'est. Que
alors, on va corriger un petit peu. On va corriger un petit peu ce que vous avez dit, c'est très juste ce que vous êtes en train de dire. En réalité, une femme, sur son agenda, en termes de Torah ou Mitzvot, comme elle a, Baruch HaShem, énormément d'obligations, il faut savoir que c'est la femme qui a l'obligation d'enseigner la propreté aux enfants, quand ils sont petits, l'hygiène corporelle, c'est une ordonnance de la Torah. La Torah nous a interdit d'être dégoûtant, bal teshaketsu. Il a interdit à un homme d'être dégoûtant, de se mettre dans une situation dégoûtante. Je vais donner un exemple concret. Je sais, j'aime bien donner des exemples qui sont sympathiques. On va dire qu'il y a des gens, Baruch HaShem, le Shabbat, ils aiment bien manger. Ils aiment bien manger. Okay. Jour de fête, ils aiment bien manger. Non, ouais. Je sais de quoi je parle. La semaine, on mange bien. Baruch HaShem. Mais le Shabbat, il y a l'entrée, il y a le plat, il y a le dessert, il y a les crudités, il y a le dessert après le dessert, il y a le dessert avant le dessert, Dieu bénisse. Baruch HaShem, qu'il y a des gens après qui sont assez gênés à la fin du Shabbat, ils deviennent concurrents directs de l'Utagaz. Il faut savoir. Mais, d'un seul coup, on a intérêt de tout le monde. Je lui ai déjà fait ça. Ah non, d'accord, on l'a déjà fait. Donc, concurrent direct de Butagaz, d'accord. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là où une personne va se mettre dans une telle situation, elle a un problème. Si elle va commencer à avoir un comportement où elle mange trop et après elle se rend malade, il y a un problème de balte shaketsu. C'est l'interdiction de la Torah de se rendre dégoûtant. De ce fait, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour une personne qui a des problèmes de digestion, d'accord, il vaudra mieux éviter de trop manger, même durant Shabbat et Yom Tov. Ça va plus loin que ça. Une personne qui ne peut pas digérer de la viande, ou qui ne peut pas boire du vin, bien que dans la Torah on nous dit que pour Shabbat et Yom Tov, il faut boire du vin et manger de la viande durant les repas. Il ne mangera pas de viande, il ne boira pas de vin. Ça le rend malade. D'accord? Donc il faut savoir que c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Maintenant on voit que la femme, pour en revenir à ce qu'on dit, elle a l'obligation d'enseigner la propreté à ses enfants, d'enseigner aussi de faire les brachot avant de manger. C'est l'obligation de la femme. D'accord? Du fait qu'elle ait ces obligations-là, donc, qui sont propres à l'éducation, ça n'a rien de misogyne. D'accord? On voit que le monde, il peut évoluer même avec les mœurs. Aujourd'hui, les femmes travaillent, Baruch HaShem, elles sont éduquées, elles ont des diplômes, etc. Et malgré cela, on voit que quand le mari et la femme travaillent, on voit que c'est la femme qui va plus s'occuper des enfants et de la maison que le mari. C'est inné. C'est dans la nature même de la femme. C'est un misogyne. Il y a des hommes, et énormément malheureusement, qui lorsqu'ils vont être dans une maison qui n'est pas très propre, pas grave. Alors que la majeure partie des femmes, je parle de la majeure partie des femmes, si la maison y a un souci, elles ont besoin de nettoyer. C'est inné. Et même si elles travaillent, et même si elles sont fatiguées. Donc de ce fait, comme la femme, elle a été créée sur une certaine nature, sur son agenda, Kadosh Baruch Hu a dit, on va pas l'obliger à faire toutes les mitzvot. Donc les mitzvot qui ne dépendent que du temps, et du temps uniquement, d'accord, elles n'ont pas l'obligation de les faire. Cependant, on va donner un exemple concret. Shabbat, ça dépend du temps. La femme est obligée de faire Shabbat. Pourquoi? Parce que dans une mitzvah où il y a un yin de Zachor Veshamor, où on doit se souvenir et garder la mitzvah, d'accord, même si c'est une mitzvah qui dépend du temps, même la femme elle a l'obligation de faire cette mitzvah. Quand on dit que la femme, quand c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredea, il est rapporté là-bas, dans le Chot Talmud Torah, qu'au nom du Shulchan Aruch, qu'un père n'aura pas l'obligation d'enseigner la Torah à sa fille, le Rama là-bas, il précise, il ne vient pas s'opposer ou débattre avec le Shulchan Aruch. Il précise qu'il n'aura pas l'obligation d'enseigner toutes les lois de la Torah à sa fille. Mais les lois qui sont propres à la fille, qu'elle a l'obligation de faire, donc les brachot du matin, qui dépendent du temps, le schéma Israël, qui dépend du temps, il y a de Zachor Veshamor, elles ont l'obligation de faire schéma Israël, les femmes. D'accord ? Etc. On voit quoi ? On voit, malgré cela, qu'elles doivent les faire. Et en réalité, la différence qu'il y a, c'est que pour les Ashkénazes, ils estiment que même s'il y a une mitzvah qui dépend du temps et que la femme n'a pas l'obligation de la faire, selon l'avis du Magen Avraham, et à cela vient se rajouter l'avis de différents poskim, d'accord ? Avant le Magen Avraham, le Rama, la femme pourra faire les bénédictions. Alors que pour les séfarades, les femmes ne pourront pas faire les bénédictions. Exemple concret, s'asseoir sous la soukha, la femme, selon l'avis des poskim séfarades, ne peut pas faire les bracha. Pour la Arba Minim, selon l'avis des poskim séfarades, la femme ne peut pas faire la bracha. Cependant, on voit que le Kafachem Sofer rapporte au nom du Chida qu'une femme pourrait faire la bracha si elle le désire, si elle comprend toute l'ampleur de la bracha. On va voir par exemple, il y a récemment, on a fait Birkat Ha'Ilanot, le Rav Avadia Yosef a rapporté un chidouche. Il explique que la date choisie pour faire Birkat Ha'Ilanot, c'est simplement une date parce que les gens se retrouvent durant cette date-là. D'accord ? Rosh Chodesh Nissan, c'est plus facile pour les gens, ils se préparent tous pour ça, les gens ils sont dans les préparations, donc c'est une date qui a été choisie. Mais ce n'est pas une date qui a été fixée dans le temps. De ce fait, il estime que les femmes peuvent faire Birkat Ha'Ilanot. Cependant, la majeure partie des décisionnaires, Ashkenaz et Sepharad, s'opposent au Rav Avadia Yosef dans cette décision en expliquant que la coutume établie est que la femme ne fasse pas cette bénédiction. Donc beaucoup, même ceux qui suivent l'avis du Rav Avadia Yosef, beaucoup d'entre eux évitent de laisser leur femme faire la bracha du Birkat Ha'Ilanot. Cependant, une femme qui a conscience et qui sait pourquoi elle fait sa bénédiction, on ne pourra pas l'empêcher de la faire. Selon cette même méthode, le Kachafa Chaim Sofer, lui, il explique autre chose. Il explique qu'une femme qui comprend toute l'ampleur de la bénédiction qu'elle fait et toute l'ampleur de la mitzvah pourrait faire la bénédiction, bien que ce soit une mitzvah qui dépend du temps. Et il rejoint en cela les poskim Ashkenaz. Le problème qu'il y a, c'est que la majeure partie des poskim séfarad s'oppose à lui et s'oppose au Chida. Et la halakha va comme la majeure partie des décisionnaires, selon chaque coutume. Donc dans la coutume séfarad, les femmes ne font pas la bracha sur les arba minim, ni dans la soukha. Donc maintenant, pour en revenir à nos moutons, entre guillemets, on voit quoi ? On voit qu'effectivement, il y a des mitzvot de la Torah qui ne concernent pas la femme. Ok. Cependant, ces mitzvot-là, la femme a l'obligation de les enseigner à ses enfants, en particulier à ses garçons. Si chas v'shalom, une femme, elle se retrouve divorcée ou séparée de son mari, d'accord ? Pour quelque raison qui soit, elle a l'obligation d'enseigner toutes les lois de la Torah à ses enfants. Donc elle aura l'obligation de les étudier, de les comprendre. Donc on voit que le inyan de la femme dans Metsuvé Véosé, il n'est pas si simple. Ça dépend de quelle femme. D'accord ? Alors ça c'est premièrement. Deuxièmement, ici on parle en général. En général, le Ramchal, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que le fait qu'il y ait eu le Mahamad d'Arsinaï, que Kadosh Baruch Hu nous ait rapproché du Arsinaï, et le fait qu'on dit que si Dieu s'était contenté de nous rapprocher du Arsinaï sans nous donner la Torah, cela nous aurait suffi, simplement pour nous dire que Kadosh Baruch Hu nous a fait venir devant le Arsinaï, simplement pour nous ordonner de faire sa Torah. Raison pour laquelle Rabbi Ishmael pense, dans Masechet Hagiga, que Dieu nous a donné toute la Torah sur le Arsinaï. C'est impossible. Toute la Torah. On dit que toute la Torah orale a été donné à Moshe Rabbeinu lorsqu'il est monté sur le Har Sinaï. Le Midrash nous rapporte que quand Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, il n'est pas monté en haut de la montagne. Quand il est arrivé au mont de la montagne, tout le monde connaît, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Il a eu un débat avec les anges. Que les anges ont dit, qu'est-ce que tu vas donner à la Torah ? Oui.
J'ai une petite question. Comment Rabbi Akiva explique Melos Zelofrat, Pesar Sheni, tout ça ? Toutes les questions que Moshe a eues plus tard après le Har Sinaï.
Oui.
C'est bien. Si il avait des questions, c'est qu'il n'a pas tout appris au Mahamad Har Sinaï.
C'est très particulier. La question de Zelofrad, elle est particulière.
Pourquoi ?
Elle est particulière.
Parce qu'on... Même Pesar Sheni. Oui. Ça fait partie de la Torah.
Oui.
Et pourtant, il a su qu'un mois plus tard.
Et on dit qu'il savait, mais qu'il avait exprès de...
Alors, on va répondre. selon la vie de Rabbi Akiva, maintenant. Mais bien déjà, on développe le point ici. Donc on voit que quand Akadash Baruch Hu, il a donné la Torah, Moshe Rabbeinu monte dans le ciel, il montait dans les cieux supérieurs. Il a eu un débat avec les anges. Les anges, ils ont dit, qu'est-ce que tu vas donner la Torah qui est sainte au monde inférieur? Qu'est-ce que tu vas donner aux hommes? Et Moshe Rabbeinu, il a dit, attends, c'est marqué dans la Torah. 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras. Vous, quand est-ce que vous reposez les anges? Il est marqué, tu respecteras ton père et ta mère. Vous les anges, où est-ce que vous avez un père? Où est-ce que vous avez une mère? Il a prouvé par A plus B à tous les malachim, entre guillemets, que la Torah a été écrite pour être donnée aux hommes. Et de ce fait, en réalité, le Ramchal, en suivant la vie de Rabbi Ishmael, veut expliquer ici que tout le lien du Mahamad Arsinaï, c'était pour nous ordonner de faire la Torah. Maintenant, pour la question que vous avez posée, monsieur, d'accord, concernant Rabbi Akiva, comment il explique Pessar Sheni, etc., on rapporte que Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la loi orale, lui, il a reçu toute la loi orale dans les cieux. Cependant, du fait que au moment où il va descendre du Arsinaï, pour la première fois, il y a la faute du Vaudor. Et par la suite, il va y avoir d'autres rébellions. Il y a des rébellions avant le don de la Torah, et des rébellions après le don de la Torah. En tout et pour tout, 10 rébellions dans le désert. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé, Moshe Rabbeinu? Il y a eu un petit épisode où il s'est mis en colère. Il faut savoir que dans la Torah, En Kadman Batra, comme le rapporte le Talmud, il n'y a pas d'ordre chronologique dans les événements. Ça a été écrit dans un certain sens, selon les lois qu'on a besoin d'assimiler. Ça ne respecte pas un ordre chronologique précis. De ce fait, le Midrash est là pour nous rapporter en réalité comment de l'épisode de Tselophrade, Moshe Rabbeinu s'était mis en colère à différentes reprises, contre différents enfants d'Israël. Et que la colère développe une klipa. Une klipa, hein, c'est une écorce. Alors on va expliquer une chose qui est sympathique. Une écorce, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Si je prends un fruit, le fruit il a besoin de son écorce pour être protégé. Maintenant, si l'écorce elle s'épaissit trop, qu'est-ce qui se passe par exemple pour un agrume? Si l'écorce devient trop épaisse, elle va tuer la vitalité du fruit et le fruit va sécher. Il ne sera pas bon à la consommation. Et ça arrive dans tous les agrumes. De ce fait, on voit quoi? On voit qu'il n'acquit pas. Il y a ce qu'on appelle le éthane, qui est une bonne écorce. Il y a ce qu'on appelle la clipa, qui est une mauvaise écorce. Et il y a une mauvaise écorce, une clipa, qui se développe quand on se met en colère, qui est la suivante, ou quand on manque d'hygiène. C'est la clipa de la shikha. C'est quoi shikha? C'est l'oubli. Quelqu'un, il vient à oublier. Il oublie son Talmud, il oublie ce qu'il a étudié, il peut oublier énormément de choses. D'accord? De ce fait, on nous apprend que même quelqu'un de très grand en Torah, comme Moshe Rabbeinu, qui est réputé comme étant le plus grand de tous les prophètes, s'il vient à se mettre en colère, il a la clipa de la shikha qui se développe chez lui. Alors si lui, il a ce problème-là, nous, on est où? Voilà comment on dit en anglais. Alors maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit que le Ramchal...
J'ai pas compris un truc. Si vous avez dit, et si la clipa, était... Même sans recevoir la Torah, ça aurait suffi.
Ouais.
Mais alors, j'ai pas compris ce qu'il dit le Ramchal. Il dit c'était tout ce qu'on est sorti, c'était pour nous ordonner la Torah.
Ouais.
Mais ça contredit ce qu'a dit la Gada.
C'est-à-dire
ah, ça veut dire justement que.
Je vais expliquer, je vais développer.
Ah, d'accord. Non, mais c'est bon.
Oui, oui, on est d'accord. J'ai pas terminé. Je fais un peu à l'envers.
D'accord.
Mes cours, c'est un gros puzzle et à la fin, tout va s'emboîter.
D'accord. Vous êtes sûr que j'étais bien positionné?
Oui. Vous êtes très bien positionné, du ministre Raphaël. Alors maintenant, c'est de la folie, j'ai un fils qui s'appelle Raphaël, c'est le même numéro, Dieu bénisse. Alors, il y a un truc avec les Raphaël. Alors maintenant, on voit comme ça, on voit ici que donc le Ramchal nous rapporte que c'était pour nous ordonner de faire la Torah. Très bien. Mais alors on reprend Bereshit. Qu'est-ce qui s'est passé après la faute originelle de Adam et Ève? On dit que la présence divine s'est retirée de ce monde. Alors il y a un point que je dis, et je redis, il peut en témoigner Gabriel qui est ici. La présence divine, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu du tout. La présence divine, c'est l'expression énergétique de l'accomplissement du divin dans ce monde. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a un livre de base en matière de Kabbalah qui s'appelle Shomer Emouni. C'est un Rishon. Qui rapporte qu'une personne, c'est très grave ce qu'il dit lui, hein, qu'une personne qui pense, lorsqu'elle va faire une bénédiction, qui pense que lorsqu'elle va dire le nom de Yud-Ké-Vav-Ké ou le nom de Elohim, qui pense que c'est le nom de Dieu, ou Kofer Baïkar, s'appelle un mécréant. C'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de l'action divine dans ce monde. Oh. Dieu, on appelle Dieu, on l'appelle Hachem, le nom. D'accord ? On peut l'appeler Akadosh Baruch Hu, le béni. D'accord ? On dit que Baruch, ça veut dire Mekor Aberacha, selon le Roche. D'accord ? C'est une source de bénédiction, Dieu. Il n'a pas de nom, Dieu. Dieu, il y a différents noms pour exprimer son action dans ce monde. Les noms dévoilés en tout et pour tout, il y en a 120. Et j'aime beaucoup l'expliquer, celle-là. Parce que très souvent, les gens me disent, mais attendez, Gvodarav, Jeanne Calment, elle a vécu jusqu'à 122 ans. Elle a enterré le propriétaire de son viager. Pour ceux qui savent c'est quoi un viager. D'accord ? Et les enfants. D'accord ? Elle a vécu 122 ans. Son appartement, elle a eu gratos. Jeanne Calment. Et elle a vécu plus de 120 ans. Pourtant, on nous dit qu'un homme, il peut vivre jusqu'à 120 ans. Oui ou non ? C'est ce que comprennent les gens. Parce qu'on dit « Admea ve esrim ». Oh.
Ça fait 10 ans que j'attends
l'explication. Ouais. 10 ans. Je réponds là ? On voit quoi en réalité ? On voit que Moshe Rabbeinu, on dit de tous les prophètes, celui qui a eu le mérite de parler avec Dieu face à face. Donc de ce fait, de tous les prophètes, c'est le plus grand. On dit qu'il a vécu 120 ans. Mais en réalité, quand il montait sur le Hors-Sinaï, il a compris la façon que Dieu avait de gérer son, nom, son monde à travers les 120 dimensions de la Shrina. 120 noms dévoilés de Dieu dans nos Sidourim. Il y en a beaucoup plus, hein. Les cachets, les anagrammes, les valeurs numériques, c'est sans fin. D'accord ? Pour étudier la Kabbalah, en réalité, il faudrait avoir fait Matsup. Quand on voit le Sefer Handassa du Rambam ou du Gaon de Vilna, qui sont des livres d'ingénierie qui se basent sur la Kabbalah. En réalité, pour bien étudier la Kabbalah, il faut être un posek halakha. Il ne faut pas être un baba. Baba Salé, c'était un posek halakha. Le Rav Kadouri, c'était un posek halakha. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'était un posek halakha. Ce n'était pas des kabbalistes. Le Rav David Abouchatzera, c'est un Rosh Yeshiva. On va danser Yeshiva, il enseigne la Gemara, la halakha. Il n'enseigne pas la Kabbalah. Pour bien comprendre la Kabbalah, il faut bien connaître la Torah. C'est pas comme ça. C'est pas en étudiant la Kabbalah et dans ce coup, pas. D'accord ? Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit.
Le rapport des noms avec les
années. Je vais expliquer. Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur le Hors-Sinaï, donc la Shrina s'est totalement dévoilée à lui. La présence divine, à travers ses 120 dimensions. Les 120 actions dévoilées de la présence divine dans ce monde. De ce fait, il a vécu 120 ans. Chaque année, par rapport au degré de dévoilement qu'il a eu. Quand on souhaite à un homme de vivre Ad Mea Ve'esrim, c'est Mea Ve'esrim Shana. C'est quoi ? Shana, ça veut dire, vous savez aussi, la racine, c'est aussi des Shanen, enseigner, étudier. Qu'il ait le mérite d'étudier la Torah et de voir toutes les portes de la Torah et tous les dévoilements de la présence divine dans son monde. Comme Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un de Mea Ve'esrim. Qu'il soit tzadik comme Moshe Rabbeinu. Et c'est possible.
Quand on dit Ad Mea Ve'esrim Shana.
Hein ? Ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, Shana ? D'accord ? Ça peut aussi vouloir dire étudier. Comment on dit une Mishnah ? Ça veut dire quoi, Mishnah ? C'est de l'échanot. L'échanot, c'est changer. Et c'est aussi enseigner. Oh. D'accord ? Donc, de ce fait, quand un monsieur, il étudie, il change. Oh. D'accord ? Donc, on souhaite à une personne de pouvoir étudier la Torah et d'être aussi grand en Torah que Moshe Rabbeinu. Ce qui est possible. On rapporte dans la Gemara que parmi les élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts durant l'épidémie, durant la période du Homer, durant les premiers jours de la période du Homer, on rapporte qu'il y avait 43 élèves qui étaient plus grands que Moshe Rabbeinu en Torah. Oh ! Mais pas en prophétie. Ce qui veut dire que c'est possible d'être grand en Torah. Prophète, il n'y aura pas plus grand que Moshe. Mais en Torah, on peut devenir grand comme Moshe Rabbeinu. Il faut juste un peu d'ambition. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité que tout le Inyan de la création, Dieu, on dit donc, la présence divine, elle se retire de ce monde, au moment de la création, après la faute originelle d'Adam et Ève. D'accord ? Alors, il y a quelque chose qui est très joli, c'est très mignon. On dit que le tétragramme, le nom de Dieu, Yudke Vavke, qui a une valeur numérique de 26. D'accord ? C'est Yudke Vavke. On rapporte que le Vav représente la Shrina. D'accord ? Les Shrina, quand elles descendent dans ce monde. Quand Dieu a retiré sa présence divine de ce monde, d'accord, que l'action divine ne serait plus dévoilée de façon claire à l'homme, on dit que c'est un Vav qui est redevenu un Yud. Et au moment du Mahamad Arsinaï, c'est le 6 du mois de Sivan, le 6. 6, c'est quoi? C'est Vav Be Sivan. 6, c'est un Vav encore. C'est le Yud qui redescend dans le monde. D'accord? Et un Yud qui se rallonge, ça devient un Vav. Pour ça, j'aime bien l'expliquer. Il y a beaucoup de chassidim qui ont pour coutume d'appeler le Vav le Yud long. Et quand à chaque fois on va voir qu'on va dire Adonai-nous, ils vont dire Adonai-ni. Malkenu, ils vont dire Malkeni.
C'est de là que ça vient.
Alors maintenant, par rapport à ça, j'ai plein de copains à mourir. Alors, par rapport à ça,
c'est vraiment plus.
Venez, venez à Débrac. C'est un grand kiff. Alors, faut voir, surtout quand je leur fais manger la clé là. Ouais, c'est. Alors maintenant, Baruch Hashem, par rapport à tout ce qu'on est en train d'expliquer, en réalité, le fait qu'on ait été rapproché du Har Sinaï et que la Shrina soit redescendue dans ce monde, que l'action divine soit redévoilée à l'œil humain, ça nous a suffi. Pas besoin de la Torah. Parce que toute la Torah, elle a été donnée pour arriver à se rapprocher de l'action divine. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, d'accord ? Dieu, il n'a pas deux bras, deux jambes, une tête, un nez, une bouche, deux yeux. Il n'a pas ça, Dieu. C'est quoi ? C'est quand l'homme, en réalité, il agit sur l'exemple de la présence divine. Donc l'énergie qui va dégager dans ce monde en suivant la Torah et les mitzvot, en sachant comment faire la mitzvah, quelle intention avoir, et comment se comporter par rapport à la personne qu'il a en face de lui, par rapport à l'endroit où il se trouve, et par rapport au moment où les gens sont dans leur vie respective, fera de cette personne-là un chacham qui se rapprochera de Dieu et qui sera à l'image de Dieu. C'est ça l'homme, à l'image de Dieu. Et qu'on ne peut arriver à être l'homme à l'image de Dieu qu'à travers l'étude et l'accomplissement de l'ordonnance divine. C'est bien, c'est en bon français. Baruch Hashem. Donc, on voit par rapport à tout ce qu'on a dit en réalité, comme le dit le Ramchal, qu'en réalité, le tzivouï ici, il est très important, le tzivouï de la Torah, mais le tzivouï de la Torah, il suffit. C'est-à-dire, même tu ne donnes pas la Torah sur leur Sinaï, mais tu dis, je vous ordonne de faire la Torah, comme on nous rapporte les Bnei Israël au moment du Mahamad Har Sinaï, du don de la Torah, pour chaque personne, il y a deux couronnes qui sont descendues. Une couronne, Kneged Naaseh, et une couronne, Kneged Nishma. Naaseh V'Nishma. D'abord, on fait la Torah, et après, on la comprend. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas étudié une halakha, il y a une halakha qui nous paraît bizarre. Ne pas toucher l'électricité Shabbat. Qu'est-ce que ça peut faire? Que je touche ou je ne touche pas l'électricité? Moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis honnête, je suis droit, je ne vole personne. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça fait de moi un mauvais juif d'allumer la lumière Shabbat? Tant qu'on n'a pas étudié cette loi, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire dans le Pardès, le joli chant de la Torah, Pardès, les initiales de Pshat, Remez, Drasha, Vesod, c'est-à-dire quand on n'a pas étudié le sens littéral de la loi dans le Shulchan Aruch et dans le Talmud, le Remez, tous les enseignements autour, les Drashot, toute la morale qui en découle, et le Sod et le secret qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça fait quand moi, Shabbat, je vais allumer la lumière dans l'univers? Oh, tant que je n'ai pas étudié tout ça, je dois faire la Torah, jusqu'à que je comprenne. C'est ça qu'on a dit au Har Sinaï.
Et après, il n'est plus obligé.
Hein?
Il n'est plus obligé.
Après, il doit continuer à faire. Non, c'est Vénishma. Une fois qu'il a compris, il comprend pourquoi il fait. J'aime bien. Le même que mon fils. Maintenant, par rapport à tout ça, on voit que le Ran, il va beaucoup plus loin dans son explication. Le Ran, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez le Rav, Rabbi Nissim ? Le Ran, il rapporte dans les drachot du Ran, drachot à Ran, dans le Drush Hamishi, d'accord, Daf Petet, Petet, et Drush Hashvi, d'accord, le Daf Kouf Tetzain, il rapporte une chose extraordinaire. Il rapporte qu'un Kohen, c'est bien, quand il va faire les korbanot dans le Beth Amikdash, il répare le monde. Et qu'un zar, un juif qui n'est pas Kohen, s'il vient à faire un korban que seuls les Kohanim ont le droit de faire dans le Beth Amikdash, non seulement il n'a rien réparé, mais en plus il est chayav mita. Il y a une halakha qui nous rapporte qu'un Kohen qui va faire le service divin sans sa tenue, sans l'uniforme de Kohen, il est considéré comme étant un étranger, un zar, c'est-à-dire un juif qui n'est pas Kohen, et lui aussi, chayav mita. Oh. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? En réalité, pour bien comprendre, tout le lien de le mitzvé veosé, c'est quoi? C'est que la personne elle a besoin non seulement d'être ordonnée de faire la mitzvah, pour la faire, comme le Kohen avec les korbanot dans le Beth Amikdash, que nous, on n'a pas cette obligation si on n'est pas Kohanim. D'accord? Mais en plus, elle doit s'y préparer. Donc il y a une tenue et il y a une façon de faire le korban. Si le korban, il est mal égorgé, s'il est mal nettoyé, si c'est mal fait, le korban n'est pas bon. Donc la personne a besoin de se préparer en plus. Et physiquement, avec la petite tenue, d'accord? Et avec le reste. Donc on voit quoi en réalité? On voit qu'en réalité, le fait qu'on dit que si Dieu nous avait reproché du Arsinaï, vous n'avez pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. C'est en réalité le fait de nous avoir fait venir jusqu'au Arsinaï, c'était pour nous préparer à recevoir la Torah. Et ça nous aurait suffi. Pour se dévoiler à nous. Et ça nous aurait suffi. Parce que toute la Torah, elle est là pour qu'on s'élève spirituellement. Et que le fait qu'il nous ait fait venir devant le Arsinaï et il soit dévoilé à nous, il nous a préparé pour toutes les générations à venir à étudier et à comprendre sa Torah en nous préparant spirituellement dans ce monde à accomplir son ordonnance divine. C'est ça le Mahamar d'Arsinaï. Et en ça, quel que soit après la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, là-dessus les deux ils sont d'accord. Que le Mahamar d'Arsinaï il est très particulier parce que c'est le moment où Dieu se dévoile à nous pour se rapprocher de nous. Mais après, comme j'ai expliqué au début du shiur, durant 28 générations, c'est Dieu qui a donné à l'homme. À partir du Matan Torah, c'est très différent. On voit dans la Torah, il y a un terme qui est écrit à plusieurs reprises, qui s'appelle Venatnu. Venatnu, ça peut se traduire de deux façons. Soit le pluriel ont donné au singulier, soit le singulier a donné au pluriel. J'explique. Soit ils lui ont donné, soit il leur a donné. Donc, soit c'est les Bnei Israël qui donnent à Dieu, soit c'est Dieu qui donne aux Bnei Israël. Le mot s'écrit de la même façon, et ce qui est extraordinaire, vous pouvez l'écrire à l'endroit ou à l'envers, vous allez lire pareil. Venatnu, et à l'envers, Venatnu. Dans les deux sens. C'est la même chose. Il y a un rapport de réciprocité qui va se créer entre l'homme et Akadosh Baruch Hu à partir du Mahamad d'Arsinaï. Ce qui veut dire qu'on rapporte que si les Bnei Israël font la Torah, il y aura une plus grande profusion dans le monde. Et s'ils ne font pas la Torah, ce sera la cata dans le monde. En ce moment, c'est la cata, non? Dans le monde. Ouais. Ouais, oui ou non? Et là, il faut savoir que la majeure partie des juifs à travers le monde ne font pas la Torah et les mitzvot. C'est intéressant. À un tel point que le Talmud nous rapporte que si les non-juifs, les nations du monde, savaient quelle importance à l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot par les juifs, ils mettraient derrière nous 7 policiers pour nous surveiller, pour être sûr qu'on étudie et qu'on accomplit la Torah et les mitzvot. S'ils avaient conscience de l'importance que ça a pour l'univers. C'est quand même fou. Maintenant, pardon ? C'est le chiffre qui donne. C'est un autre indien. On expliquera à la fin le chiffre 7. Hein? Dommage. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit là-dessus que les Tosfot, dans Masechet Kiddushin, d'Aflamed Aleph Amoud Aleph, et dans Masechet Avodazara, d'Avgimel Amoud Aleph, Il nous rapporte dans le Dibur HaMatril Gadol HaMetsuvé, là-bas, quoi, que pourquoi celui qui a ordonné de faire a un plus grand mérite que celui qui n'est pas ordonné de faire. Du fait qu'il soit ordonné, il a peur de fauter. Parce qu'il sait qu'il a l'obligation. Alors que celui qui n'est pas ordonné, il sait qu'il n'a pas l'obligation, il n'a pas peur de fauter. Ce qu'il rapporte, c'est joli, ça c'est le pshat.
La peur de fauter, au contraire, ça rend la possibilité de faire plus facile.
C'est-à-dire ?
S'il a peur de fauter, c'est plus facile pour lui de faire que celui qui a peur de fauter. C'est pour qu'il devrait avoir un mérite plus petit.
Ah, bonne la question. C'est bien. Alors on va sortir la Masechet Sanhedrin. Tac. Non, c'est bon. Mahloket. Il y a une question qui est posée dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin. Qui est plus grand en toi ? Avraham Avinu ou David Ameler ? Quel rapport d'abord ? Bon. Quel rapport ? Les deux font partie, sont considérés comme étant les piliers du trône divin. D'accord ? Donc c'est des Amouder qui sont à Kavod. Les deux, David Ameler et Avraham Avinu. Ça, premièrement. On dit, c'est lequel le plus grand ? Avraham, on rappelle l'histoire d'Avraham quand même, hein, à l'âge de 3 ans. Son père à l'époque, c'était Bill Gates. Pourquoi c'était Bill Gates ? Aujourd'hui, il y a des ordinateurs PC dans toutes les maisons. Windows, ils se débrouillent pas trop mal. Franchement, ils vont pas très bien. Bon, on sait. Mais bon, ça va, ils vont se rattraper avec l'aide de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, en réalité, à l'époque, Terach, le père d'Avraham, c'était le principal fabricant d'idoles. Il arrivait à faire des idoles extraordinaires, Terach. Maintenant, c'était le principal fabricant d'idoles. Et tout le monde venait acheter chez lui les idoles. Fournisseur officiel. Avraham, il peut se retrouver à la tête d'un des plus beaux business mondial. Qu'est-ce qu'il dit à son père ? Papa, il y a bien un Dieu qui a créé tout ça. Moi, je suis... Oui ou non ? Tout le monde la connaît, l'histoire. Après, il va casser toutes les idoles. Il va dire qu'elles se sont disputées entre elles. Son père, il dit, tu m'as pris pour un idiot. Il dit, alors, tu les vends. Il dit, tu crois pas ? Il dit, moi, j'y crois pas. Mais c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Il n'y croit pas, mais vends-les. Il dit non, moi je ne veux pas les vendre. Pour être protégé, on voit que il y a les astrologues de Nimrod à l'époque qui ont vu que Avraham allait devenir un danger pour sa royauté. Ils ont décidé d'aller voir Terach et de tuer Avraham. Qu'est-ce qu'il leur a dit Terach ? Il a dit, vous voulez prendre un cheval, lui couper sa tête et lui dire qu'il va vivre ? Je ne vous donnerai pas mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait, Terach ? Il a caché son fils dans une grotte. Et Avraham, à partir de l'âge de 3 ans, il a vécu tout seul dans une grotte avec son père qui leur apporte de la nourriture de temps en temps. Et là-bas, on dit qu'il a survécu et que Dieu s'est dévoilé à lui. Avraham Avinu. Il faut comprendre de qui on parle. C'est quand même grand. Alors d'accord, David Ameler, son père Ishaï, il a désiré la servante. Et que la mère de David Ameler, Nitzevet Adel, elle a décidé, elle avait vu que son mari, il désirait la servante. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Chaque nuit, elle disait à la servante de dormir dans sa chambre à elle, et elle allait dormir dans la chambre de la servante. Jusqu'au soir où Ishaï a craqué, il est venu dans la chambre de la servante. Ishaï, le père de David, il a pensé coucher avec la servante. En réalité, il a couché avec sa femme. Sa femme, ce soir-là, elle est tombée enceinte de David. La femme a caché à son mari, elle a réussi à cacher à son mari qu'elle était enceinte et qu'elle a accouché. Ishaï pensait que David était le fils de la servante. Maintenant, Ishaï, il avait le droit de prendre plusieurs femmes. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais il avait un chachash du fait d'avoir pensé à cette femme, même quand il allait avec sa propre femme, d'avoir désiré la servante. Et du fait d'être allé avec cette servante pour lui, même si, Alpi Alakha, il n'a rien transgressé, il y avait un rachage peut-être que Bidé Shamaïm, il y a un mou sur David Ameler, et que Bidé Shamaïm, il soit même zèle. Ça, c'est un truc que très peu d'hommes savent. Lorsqu'ils couchent avec leur femme, et qu'ils pensent à une autre femme, Bidé Shamaïm, l'enfant, il peut être considéré comme un mamzer. Il peut avoir beaucoup de problèmes. On dit qu'il peut devenir Baal Moum. C'est quoi un Baal Moum ? C'est un enfant qui aura plus de mal qu'un autre à arriver à faire la Torah et les mitzvot. Il n'est pas un mamzer, hein ? Il a le droit de se marier avec tout le monde, etc. C'est juste Bidé Shamaïm. Dans le ciel, on considère qu'il va avoir un écran qui va se faire, qui va l'empêcher de faire tes choix de façon plus concrète. Raison pour laquelle on dit que le soir du mikvé, lorsque la femme va au mikvé, c'est bien que le mari aussi il aille au mikvé, qu'il étudie, qu'il se purifie, qu'il fasse de moussar. Raison pour laquelle on fait la brit mila à l'homme. Pourquoi ? Pour que son alliance avec Dieu, l'alliance de la parole, passe par son entrejambe, pour qu'il arrive à être kadosh, même avec son entrejambe, et que son cerveau reste bien entre ses deux oreilles. Je sais que je choque quand je dis tout ça, mais c'est important de le dire. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité que Ishaï, donc David, il va sortir du ventre de sa mère, Ishaï va croire que c'est le fils de la servante, tous les frères vont le dénigrer, Ishaï, il va passer son temps à l'envoyer dans les champs en espérant qu'il se fasse manger par un lion, par un ours, par un loup, et David, il survit. Et c'est un tzaddik, il passe ses nuits à louer l'Éternel, et à chanter et à étudier. Oh ! Mais on voit que David, même s'il a eu beaucoup de difficultés, sa vie, elle a été beaucoup plus facile qu'Avraham Avinu. Donc maintenant, je vous pose la question. Qui a le plus grand mérite ? Avraham Avinu ou David Ameler ? Vous connaissez la réponse de la Gemara ? David Ameler. Pour quelle raison ? Parce que David Ameler, du fait qu'il ait été ordonné de faire la Torah, alors qu'on voit qu'Avraham, il n'a pas fauté par rapport à David. David, il a fauté avec Bathsheba. Maintenant, on voit quoi ?
Et on dit que celui qui dit que David l'a fait avec Bathsheba...
Hein?
La Gemara elle dit que celui qui dit que David il a fauté alors.
Oui.
Alors je sais pas, c'est un fou. Non, il se trompe.
Parce que Alpi Alaha, David il, sait pas trop, il a pas fauté. Mais à son niveau, à lui en tant que tzaddik, c'était pour lui considéré comme une faute. Il faut comprendre que Akadash Baruch Hu, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Merci de me l'avoir rappelé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité que les tzaddikim ils sont jugés à un autre niveau. Que plus on avance en Torah, plus on grandit, plus on est grand. Et plus on doit se remettre en question. Dans la Gemara Masechet Nida, on dit qu'un tzaddik ou un talmid racham doit toujours se considérer comme un rachat, comme un mécréant. Pour pas se reposer sous ses lauriers. Oui.
Abraham, il a sacrifié son fils. David Ameler, il n'a pas fait un truc aussi.
Oui, d'accord.
David Ameler, il a eu une vie pas sympa, sympa non plus.
Pas sympa, sympa, mais quand on étudie les deux vies, d'accord ? On voit les deux biographies.
Son fils, il a essayé de le tuer, il a perdu toute sa descendance, on l'avait annoncé, il a fait se faire tuer par un géant.
C'était pas ça.
Et Avraham, il a fait la guerre contre 11 rois. Mais Avraham, il a fait la guerre contre 11 rois et à son époque, il était tout seul.
Ah, mais ça, ça peut être vu comme un truc un peu sympa, quoi. Il a battu 11 rois tout seul.
Maintenant, donc, normalement, logiquement, quand on étudie les deux biographies, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que la Gemara a choisi ces deux personnages.
Et Avraham, il était fils de Rachel, alors que David, il était... Non,
Terah, c'est pas
un Rachel.
Terah n'était pas idolâtre.
C'était
pas le plus grand des justes.
Mais c'était
Donc logiquement, je suis d'accord avec vous. Donc logiquement, l'Agmara devrait nous dire que le plus grand c'est Avraham. Non, le plus grand c'est David. Pourquoi c'est le plus grand c'est David ? On va pas faire toute l'histoire des deux personnages. On a pour des heures. Mais en réalité, c'est quoi ? Normalement, ça devrait être Avraham. On dit que c'est David parce que David a été ordonné de faire la Torah. C'est quoi la différence ? Celui qui est ordonné de faire la Torah, avec l'ordonnance de la Torah, vient le Yetzer Hara. Avraham, toute la Torah qu'il a fait, Avraham, Yitzhak, Yaakov, nous rapporte l'Agmara que toute la Torah qu'ils ont fait, c'était du chesed. C'est des chassidim. Ils l'ont fait par amour de Dieu.
Mais c'est pas
ça,
c'est encore
faux. Alors que, hein ? Eh ben non, parce qu'ils n'étaient pas ordonnés de faire la Torah. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est ordonné de faire la Torah, il doit lutter contre son Yetzer Hara. Ça, c'est un. Attendez. Et si je lutte contre mon Yetzer Hara et que j'arrive à faire la Torah de façon désintéressée, alors là, j'ai un très grand mérite. Mais il faut que je sois ordonné de la faire. Pour arriver à la faire de façon désintéressée. Eux, ils n'étaient pas ordonnés de la faire la Torah. Et ils l'ont faite de façon désintéressée. Ils ont un très grand niveau, les Avot. On n'est pas en train d'énigrer. Mais on voit qu'en réalité, qu'un juif qui a ordonné de faire la Torah, il doit lutter contre son Yetzer Hara. De ce fait, il a un plus grand niveau quand il arrive à faire la Torah et les mitzvot que celui qui n'a pas ordonné de faire, qui a été ordonné de faire la Torah.
Mais ça suppose qu'il dit Tosfot. Avoir peur de la faute, c'est un Yetzer Hara. Ce qu'il dit Tosfot,
C'est le pshat, c'est ce que rapporte Tosfot, parce que pour Tosfot, tous les juifs sont des Yerushalayim.
Tosfot, il n'est pas Yitzhara, il dit à celui qui a été Mitsoué, il a plus qui retraite que celui qui n'est pas Mitsoué.
Ouais.
Celui qui a plus, plus on a peur de la faute, moins. C'est un Yitzhara tort d'avoir peur de la faute. Ça sauve du Yitzhara, ça suppose. Est-ce que vous me dites qu'il a plus de Yitzhara, c'est d'accord, mais qui a plus peur de la faute, au contraire.
Alors c'est ce que réexplique Tosfot, à partir du moment où la personne a la crainte divine. Si la personne n'a pas la crainte divine. Donc maintenant, comment on fait pour arriver à avoir la crainte divine? Maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit, d'accord? Maintenant, le Ramchal, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Il est en train de développer autre chose par rapport au Bel et Tosfot. Et même par rapport au Ran. Le Ran dit, la personne doit se préparer, elle doit être en condition, etc. C'est ça le Mahamar d'Arsinaï. Ok? Il rapporte l'exemple du Kohen. Le Ramchal, il est d'accord avec lui en disant que le fait de nous avoir approchés du Arsinaï, c'est une préparation spirituelle qui suffisait parce qu'on a tout le développement du divin et toute la Torah a été donnée pour arriver à ça. D'accord? Maintenant, ça va plus loin que ça. Parce qu'avec le matin de Torah, du fait d'avoir été ordonné de faire la Torah, celui qui a ordonné de faire la Torah, il arrive à créer dans ce monde des énergies et des mondes spirituels. De ce fait, ça rejoint ce qu'a dit le serpent. Adam et Ève, et là il y a une opposition. J'attends la réaction. Adam et Ève, ils ont été ordonnés de ne pas manger le fruit interdit. Ils ont eu un seul interdit. D'accord? Ils ne l'ont pas respecté. Ils ne l'ont pas respecté. Et quand ils ont mangé ce fruit, on dit que maintenant, ils connaissaient la différence entre le bien et le mal, ils étaient comparés à Dieu. Et que dit Rashi? Qu'ils étaient capables de créer des mondes, entre guillemets. À partir du moment, en réalité, que nous rapporte le Midrash? Une chose extraordinaire. On dit que le Etz Adat Tovara, d'accord? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on traduit connaissance du bien et du mal, c'est pas une bonne traduction. En réalité, le da'at, c'est l'union. Quand on dit chokhma bina da'at, d'accord? C'est quoi? On parle de chokhma, c'est le potentiel d'une personne à comprendre les choses. Bina, c'est mettre en application son potentiel. Et quand elle met en application le potentiel de compréhension qu'elle en est, elle arrive au da'at, elle arrive à s'unir à Dieu. Par rapport à ça, le Rav Mir Mazouz nous a enseigné un enseignement du Maharsha sur la Gemara. Quand on dit Nashim Da'atan Kala, que les femmes, elles auraient l'esprit léger, comme certains veulent le dire, ce qu'aurait dit Rabbi Mir Benanès, c'est pas ça qu'il veut dire. Parce que là-bas, on parle de Bruria. Et la femme de Rabbi Mir Benanès, même si dans certains domaines on la critique, un, elle avait le statut d'Atana, parce qu'elle dit Mishnayot, on s'inspire d'elle pour les enseigner. Oh, ça c'est un. Et deux, elle avait un très grand niveau. Un très grand niveau. Et quand il disait Da'atan Kala, c'était quoi la Kavana? De dire, Rabbi Benes là-bas, il veut dire quoi? Que sa femme, Bruria, elle mettait des tefilines, elle n'avait pas besoin de les mettre. Pourquoi? Parce que Da'atan Kala, c'est pas qu'elles ont l'esprit léger. Elles arrivent à s'unir plus facilement avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles portent la vie en elles. Quand elles tombent enceintes, elles mettent des enfants au monde. Oh! Donc elles comprennent certaines choses, raison pour laquelle les femmes n'ont pas l'obligation de faire les mitzvot en rapport avec le temps. Parce que de la façon dont elles ont été créées, et la faculté qu'elles ont en elles de pouvoir porter la vie, de la donner, de la mettre au monde, d'accord, comme j'ai expliqué dans cette maison et au mariage de Kevin la dernière fois, qu'en réalité, le mari, c'est le etzem, c'est l'essence, et la femme, c'est la tsoura. Elle donne forme aux choses. De ce fait, comment on voit ça? Le mari, lui, il rentre à la maison, il doit ramener la parnassa normalement, selon la loi juive. Il doit étudier la Torah pour l'enseigner à la maison normalement. D'accord? Il ramène les matériaux premiers. Et avec ça, la femme, elle donne vie et elle fait prendre forme la maison. Et comment on le voit? Au moment où on va faire un enfant, la source de vie, c'est l'homme qui la porte avec sa semence. Et l'enfant prend forme dans le ventre de la mère. Bon. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit en réalité que lorsqu'on rapporte, par exemple pour le Cohen, que s'il n'est pas en tenue, on considère que c'est un non-Cohen. C'est quelqu'un qui n'est pas Cohen qui a fait le sacrifice. Et on estime qu'il a fauté, au lieu d'avoir réparé le monde. D'accord? En réalité, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'en réalité, tout dépend des forces supérieures. Et quoi? Ce qu'on appelle dans la Gemara, Urmena de Malka, le Rishut d'Akadosh Baruch Hu. le réchoud du roi, d'avoir l'autorisation de Dieu de pouvoir agir. Quand Dieu se dévoile sur le Har Sinaï, il vient donner l'autorisation au Bnei Israël d'agir dans ce monde pour créer une nouvelle force. De ce fait, à partir du Matan Torah, qu'est-ce qui va se passer? Les Bnei Israël, quand ils font la Torah, ils créent dans ce monde un flux d'énergie positif. Ce flux d'énergie positif monte dans le ciel et refait descendre dans le monde une plus grande profusion. Avant le Matan Torah, la profusion est descendue que par volonté divine. À partir du Matan Torah, la profusion descend dans le monde par rapport à l'action des Bnei Israël et des non-juifs qui respectent les sept lois de Noé. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, une telle force ne peut pas être donnée à quelqu'un qui n'est pas prêt. Quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir. Un tel pouvoir ne peut pas être donné à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. De ce fait, il a fallu que les Israël soient esclaves en Égypte, il a fallu les faire sortir d'Égypte, il a fallu leur faire traverser la mer Rouge, et il a fallu que Dieu se dévoile à eux sur leur Sinaï pour les préparer à recevoir un tel pouvoir. Pour se préparer à recevoir la Torah et se détacher totalement de l'enveloppe matérielle. On rapporte une chose extraordinaire, on dit que quand on pose une question, on dit « Attends, je ne comprends pas. » Le monde est rond comme une sphère, d'accord ? Comme un œuf, comme le rapporte le Zohar dans Sefer Vaikra, d'accord ? Maintenant, on nous dit comment du Mahamad Har Sinaï, d'un bout à l'autre de l'univers, ou de la création si vous préférez, tous les rois du monde et toutes les nations ont assisté et ont entendu le Mahamad Har Sinaï. On dit que Dieu il a parlé très très fort, que tous les Israélites ont eu peur. Certains disent qu'ils sont évanouis, d'autres disent qu'ils sont morts et qu'ils ont été ressuscités. D'accord ? Il y a Fémeod. Mais on nous rapporte qu'ils ont vu et entendu tous les rois du monde. En réalité, il faut comprendre que quand il y a eu le dévoilement divin, le monde matériel a été annulé et a été transformé en spirituel. De ce fait, toutes les essences spirituelles se sont retrouvées en présence d'Akadosh Baruch Hu devant Dieu sur ce qu'on appelle le Mahamad Har Sinaï. Donc le monde matériel tel qu'on le connaît n'existait plus à ce moment-là, au moment du Matan Torah. Ce qui explique que tous les rois du monde ont pu assister au Matan Torah, où qu'ils soient. Et tous les hommes et femmes dans ce monde ont assisté au Matan Torah, où qu'ils soient. Et on rapporte qu'on était tous les uns à côté des autres au moment du Matan Torah. On dit tous ceux qui sont présents ici, tous ceux qui ne sont pas présents. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont présents dans le monde matériel et tous ceux qui ne sont pas présents qui sont encore dans le monde spirituel. On s'est tous retrouvés ensemble au Matan Torah. On était tous là-bas. Tout le monde. Donc, par rapport à ça, on voit quoi? On voit qu'il a fallu cette préparation-là, de nous faire comprendre, il y a eu le dévalement du spirituel le plus total, pour nous faire comprendre, quand on fait la Torah, quand on prend une mitzvah sur soi, qu'est-ce que ça engendre dans le monde? Ça va beaucoup loin que ça. On voit que le mot Chorban, d'accord, sans vav, a une, pour valeur numérique, 260. Destruction. Quand on parle de la destruction du premier et du deuxième temple, on emploie le terme Chorban sans vav. Valeur numérique 260. On dit que la présence divine se dégage sous son nom le plus simple, qui est le tétagramme. D'accord ? Le Yudke Vavke. Valeur numérique du Yudke Vavke, 26. On dit que le monde évolue dans des milliards de sphères sans fin, mais que chaque groupe de sphères est constitué de 10 sphères, qui sont 10 attributs divins, qu'on appelle aussi les qualités humaines. D'accord ? 10 fois 26, ça fait combien ? 260. Quand on pleure la destruction du Beth Amikdash, on pleure la séparation de la création avec la présence divine à travers toutes les sphères. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, je parle du premier temple, quand on mettait les tefillin et quand on faisait une bracha, on voyait le malheur qu'on créait quand on faisait la mitzvah. On voyait ce que ça faisait dans le ciel. Du Matan Torah jusqu'à ce moment-là, on voyait tout. Ce qui explique que beaucoup de gens étaient idolâtres, ils servaient l'arbre, la pierre, parce qu'ils voyaient tous les hommes la présence divine dans l'arbre et dans la pierre. Mais ils n'arrivaient pas à concevoir que c'était la présence divine. Donc ils ont rendu les arbres, les pierres, les objets, les autres nations, ils en ont fait des idoles. Et on voit que l'idolâtrie, elle va être encore plus forte qu'en Israël que dans n'importe quel autre pays. On voit qu'à partir du moment où les Bnei Israël vont rentrer en Israël, ils vont devoir lutter contre des peuples idolâtres et que l'idolâtrie va être le plus grand yetzer des Bnei Israël jusqu'au roi Ménaché. À un tel point dans la Gemara, Rabbi Yeshua Lévi, il pose la question au roi Ménaché qui lui vient en rêve. Il dit, explique-moi, toi à la fin de ta vie, t'as fait tes chouvas. Le roi Ménaché à la fin de sa vie, il a fait tes chouvas. Comment t'as pu faire de l'idolâtrie? Il lui a dit, si t'avais vécu à mon époque, si t'avais vu la présence divine comme nous on la voyait dans la matière, toi tu aurais couru à quatre pattes pour être idolâtre. Et après, hein?
Il n'a pas eu Olam Haba.
Bien sûr qu'il a eu Olam Haba. Dans le Zohar, on nous rapporte que la yeshiva des Balei Tshuva, c'est la yeshiva de la plus proche d'Akadosh Baruch Hu, qui se trouve à l'entrée, d'accord, de toutes les prières acceptées par tous les Balei Tshuva. Il y a un tunnel sous le Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu, par lesquels arrivent directement toutes les prières des plus grands Rishaïm qui veulent faire Teshuva, des plus grands mécréants. N'importe qui aujourd'hui peut faire Teshuva. Et cette prière-là, elle arrive là-bas. La yeshiva des Balei Tshuva, elle est là-bas. Et c'est qui le Rosh Yeshiva des Balei Tshuva? Qui a le tzitz du Kohen Agadol, l'écrit du Kohen Agadol sur lequel il y a marqué Mila Hashem Elai, sur son front. D'accord? Là-bas, le roi Menaché. Zohar. Sympa quand même. Maintenant, on voit quoi? On voit par rapport à tout ce qu'on a dit, qui avait besoin d'une préparation. Maintenant, on voit quoi? On voit par exemple, et c'est ce que nous dit l'introduction du Zohar. On parle un peu du Zohar. On voit dans l'introduction du Zohar, d'accord? Là-bas, Dav Dalet Amoudbet, il faut voir, il y a différents Zohar, c'est par rapport à la pagination originale des premières éditions du Zohar. Les références ici. D'accord? Et dans la Gemara Sanhedrin, pagination, c'est la mise en page. Je prends un... C'est un bon mot en français. Bon, Baruch Hashem. Alors, dans la Gemara, la Sechet Sanhedrin, Tzadik Det Amud Bet, d'accord, sur le pasuk de Yeshaya, dans le Perek Nun Alef, pasuk Tetzain, il est dit, Ve'asim dvarai beficha, utzel yadik siticha alinto hashamem, lisod aretz, ve'lemor litzion amiata. Je traduis le verset, parce qu'il est très joli. Il a dit, et je mettrai mes paroles dans ta bouche. Yeshaya. Dieu dit au Béni Israël par le biais de Yeshaya, qui mettra ses paroles dans la bouche de chaque enfant d'Israël. Ou tsel yadik isitecha. Et à l'ombre de ma main, je te recouvrirai. Lintoa shamaim, pour fixer le ciel. Ou les sod aretz, et pour faire tenir la terre. En disant, et les morts, les tsion, à Yerushalayim, yaoulev bet amigdash, amiata, tu es mon peuple. On ne parle pas de Tzion ici, on ne parle pas de la ville de Jérusalem. On parle de Tzion, quand on dit Tzion, ça fait référence à l'endroit où il y a le Beth Amikdash, mais aussi au Beth Amikdash dans le ciel. C'est-à-dire quoi en réalité? On dit, quand on dit Dvaray Beficha, mes paroles dans ta bouche, c'est la Torah. Il y a la force pour l'homme, c'est ça qu'il dit Ishaïr ici, au nom de Dieu. Il y a la force pour l'homme de créer le ciel et la terre, de les faire tenir, tant au niveau matériel, qu'au niveau spirituel. Et c'est particulièrement la particularité de créer des mondes spirituels. On va donner un exemple concret. D'accord? On voit dans Sefer Shemot, Perekutef, Pasukbav, Vatem Tiouli, Mamlechet Kohanim, Vegol Kadosh. Et vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint. Goy, ça ne veut pas dire non-juif. Goy, ça veut dire nation. Pourquoi les non-juifs sont appelés nation? Parce qu'on dit que d'un homme peut sortir une nation. Quand on dit dans le Talmud que lorsqu'on sauve un homme, on sauve un monde, tout simplement parce que on sauve la personne et toute sa descendance. Donc c'est rien de péjoratif normalement. Maintenant, nous-mêmes, on est en train de dire sur Ibn Israël, Goy Kadosh, un peu plus sain. On voit, et on voit par la suite, quand on parle du Matan Torah, dans Sefer Dvarim, Perev Kazaï, Pasuktet, Ayom Azeh, Nietaleam. En ce jour, tu fais un peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, à partir du moment où on accomplit l'ordonnance divine, on devient nation de ce monde. On devient réellement les personnes pour qui la création a été faite. Quand on dit Bereshit, la Genèse, on dit Reshit, c'est les bénis Israël qui font la Torah et les Mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font la volonté divine aujourd'hui. Le Rambam rapporte qu'on doit être un exemple pour les nations pour les pousser à faire les sept lois de noir. Dans Ilchot Giyur, dans les Alachot pour la conversion, on dit pour quelle raison on n'est pas prosélyte? Parce qu'un non-juif qui respecte les sept lois de Noé a un mérite. Il s'appelle Chassid Yesod Olam. Il a droit en partie au Olam Haba. Mais si on le convertit, qu'il ne fait pas les 113 commandements, il perd tout son mérite. Donc les conversions bidons, on ne laisse pas se faire. Quand on veut convertir quelqu'un, il faut être sûr qu'il connaisse toute la Torah, qu'il ait appris toutes les halakhot, et qu'il soit motivé pour les appliquer, sinon on ne le convertit pas. On lui apprend essentiellement les lois du Shabbat, de la kashrut et de la tfila. C'est que ça, hein, il y a encore beaucoup d'halakhot après. Donc, c'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel, ce qu'il veut. Hein? Non, c'est pas un peu. On leur apprend bien, on prend le Kitsur Shukran Aruch, on donne le Kitsur Shukran Aruch. Tu connais tout le Kitsur Shukran Aruch. Et tu dis le tueur, c'est pas mal. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à partir de ce moment-là, quand on dit que là, on devient une nation, quand il y a eu le Mahamad d'Arsinaï, que c'est là qu'on fait partie réellement de la création, et c'est à ce moment-là qu'on a le mérite de recevoir la création réellement, parce qu'on fait l'ordonnance divine. Et que c'est à ce moment-là qu'il y a en partie la réparation de la faute originelle qui a été faite. Pourquoi? Comme je l'ai dit, Akadosh Baruch Hu redescend sur le Arsinaï, c'est le Yud qui descend, ça redevient Avav, Vav Bissivan. C'est la date de Shavuot, le jour du matin de Torah. On voit quoi? On voit qu'à partir du moment où on dit tout ça, d'accord, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on devient un peuple de prêtres pour Dieu, il faut bien comprendre, comme il y a une obligation, le soir de Pessah, de dire que chaque homme doit considérer que lui-même est sorti d'Égypte, le soir de Shavuot, chaque personne a l'obligation de dire qu'il a reçu la Torah au Arsinaï, parce qu'on y était tous. Et on voit que dans ma Masechet Avot, pour expliquer les mondes concrets, et je terminerai là-dessus parce que je crois que ça commence à devenir un peu long, dans ma Masechet Avot, il a rapporté dans le Perek Dalet, Mishnah Yudalef, « Aose misva echat, konelo praklit echat. » Celui qui fait une misva, il acquiert pour lui un défenseur. Ça veut dire quoi en réalité? Dans le Zohar Hadash, sur le livre de route qu'on étudie le soir de Shavuot, pour différentes raisons.
Le Zohar Hadash.
Ah, le Zohar Hadash. Alors on va expliquer. Il y a le Zohar qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai et qui a été ensuite rédigé. Ils ont continué à rédiger les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord. Le Zohar a été écrit sur tout le Tanakh. Maintenant, par la suite, il y a les écrits qui étaient sur les Nevi'im et les Ketuvim se sont perdus pour la majeure partie d'entre eux. Des générations plus tard, une partie de ce Zohar-là va être retrouvée. D'accord? C'est une très belle histoire sur des bouteilles, pour protéger des bouteilles chez des marchands qui habitent en Israël. D'accord? Et en fait, il y a certaines personnes qui vont récupérer ces écrits-là et on attendra des grands maîtres tels que le Harizal pour développer ces enseignements-là. Et c'est ce qu'on appelle le Zohar Hadash. Donc, l'origine des enseignements vient de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils ont été développés par des grands maîtres en Kabbalah. Et là-bas, dans le Zohar Hadash, il y a un enseignement qui, à l'origine, est un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur le livre de Ruth, qui dit quoi? Im tiske la misvot, kol misva ou misva, ya'avdu necha, mina malach tov. Si tu as le mérite de faire les misvot de la Torah, pour chaque misva que tu feras, tu auras le mérite de créer un ange qui sera pour toi un bon ange. C'est ça ton défenseur. C'est un ange qui va monter dans le ciel pour prendre notre défense. Un malach tov. Tel que c'est enseigné aussi dans la Gemara. D'accord? Après, il dit une autre chose qui est fantastique. Im tizke beoraita, si tu as le mérite d'étudier la Torah, kol ot va ot, yé malach de yazreka. Chaque lettre de ton étude deviendra un ange qui va t'aider. Et dans le ciel et sur terre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire grandir les mondes spirituels à travers l'accomplissement des misvot. Plus on agit bien, plus on fait le contrepoids contre toutes les mauvaises énergies qui sont créées par la mécréance dans le monde. C'est tout. Donc de ce fait, quand on vient au Arsinaï et qu'on a été préparé spirituellement en recevant la Torah, ça nous aurait suffi. Parce que tout le dévoilement du divin a été fait, je le dis, je le répète, et que quand on vient le soir de Shavuot et qu'on reçoit la Torah, alors faut dire, on doit faire le Kinyan. Maintenant, ce qui est magnifique, par rapport à ce que je viens de dire, il y a un Rambam dont on a parlé lundi soir. Tu te souviens du Rambam, Gabriel? Ouais. C'est bien, je parle pour rien. Alors maintenant, on voit comme ça, on voit en réalité qu'il y a un Rambam qui dit qu'on doit acquérir la Torah chaque jour. Chaque jour, on doit faire l'acquisition de la Torah. Comment? À travers l'étude de la Torah et l'accomplissement du Izot. C'est un kinyan. C'est ce qu'on appelle le kinyan à Torah. Le jour de Shavuot, c'est pas kinyan à Torah, c'est le kinyan à Torah par excellence. On acquiert la Torah par excellence en renouvelant notre alliance avec Dieu, chaque année. En célébrant la fête, pour ceux qui ont la coutume de ne pas dormir la nuit, c'est le cas des séfarades, pour faire le tikkun kri moed, parce que l'alpi kabbalah, c'est pas de bien d'étudier le Talmud ce soir-là. D'accord? On voit quoi? On voit que c'est un très grand mérite et d'attendre jusqu'au net pour faire la tfila. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas cette coutume-là. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes. Il y a un petit débat, parce qu'il y a une partie du Kriyat Moed qui a été rédigée par un monsieur qui s'appelle Zvi Shabtai, qui était un faux messie, d'accord? Qui était très grand en Kabbalah. Maintenant, avant de péter un plomb, ce monsieur, il a eu beaucoup d'enseignements de Kabbalah qui ont été récupérés par nos maîtres et qui ont été modifiés, dont le Kriyat Moed. D'accord? Le Kriyat Moed, il faut savoir que par la suite, celui qui l'a modifié principalement, c'est le Rida. Et que Al-Pikaba, le Rida rapporte qu'il ne faut pas étudier le Talmud ce soir-là. Le problème qu'il y a chez nos frères Ashkenaz, il a fait un tel massacre, Zvi Shabtai, dans le monde Ashkenaz, d'accord, que même 100 ans après sa mort, il y avait encore des gens qui ont fait partie d'une secte, pensant toujours que c'était le Messie, et qui tuaient quiconque remettait en question la parole de Zvi Shabtai, alors que c'est un monsieur qui, à la fin de ses jours, il s'est converti en Turquie à l'islam, avec tous ses élèves, et a été décapité sur la place publique. D'accord? Et qu'il a endormi tout le monde parce qu'il était grand en Kabbalah, et que les gens de l'époque, la majeure partie des gens n'étaient pas capables de comprendre la Kabbalah. Alors que tous les grands de la génération ont dit, attention, c'est un bidon, attention les kabbalistes, faut suivre les possibles, les rabbins, les vrais, pas les babas. Hein? Par l'autorité turque. D'accord? Roi de Turquie. Non, parce qu'il a voulu prouver, il disait, voilà, ils pensent que c'est leur messie, l'islam est plus grand que le judaïsme. Les Turcs étaient musulmans à l'époque. Donc ils l'ont converti à l'islam, ils l'ont décapité une fois qu'il s'est converti. Voilà. Hein?
Il s'est converti au contraire.
Parce qu'ils ont dit que c'était pas une véritable conversion, vu qu'ils l'ont menacé de le tuer s'il se convertissait pas. Ils disent, comme ça tu abandonnes ton Dieu et ta Torah. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a ce qu'on appelle le peuple du livre. Le peuple du livre, ce sont les gens qui étudient et qui accomplissent la vie de la Torah. Les musulmans, normalement, selon le Coran, n'ont pas le droit de toucher au peuple du livre. Ils n'ont pas le droit de faire du mal. Aux juifs, ils font Torah au misvot. D'accord? À partir du moment où un juif se détourne de Torah au misvot, il a appelé mécréant.
Ils
ne
sont pas marmir, mais...
Hein?
Ils sont pas marmir sur ça.
De quoi? Il y a un petit problème. Premièrement, le Coran, il y a différentes versions. Et même entre eux, ils ont beaucoup de débats. Même entre eux, que Dieu les aide à arriver à s'unir autour de Dieu pour faire la volonté divine telle que Dieu veut. D'accord? Arrêtez avec le djihad, normalement, c'est la guerre du Yetzerara contre le Yetzerara. D'accord? C'est de lutter contre son mauvais penchant. C'est pas de tuer tout le monde dans le monde. D'accord? C'est pas ça, normalement. D'accord? Maintenant, par rapport à ça, et je vous rappellerai une halakha, ça va peut-être vous choquer. Il y a une halakha qui rapporte que si on entend un musulman qui fait une bénédiction avant de manger, en hébreu, ou qui remercie Dieu, qui fait une prière, on a l'obligation de répondre Amen. On doit dire Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ce qu'on a dit? On a parlé des musulmans. Maintenant,
qui remercie Dieu pour avoir...
Alors c'est pas facile, c'est pas simple ce que vous êtes en train de dire. Selon le Rambam, ils sont considérés comme étant des idolâtres, d'accord? Selon le Rajba et le Ran, ils considèrent pas que eux sont idolâtres, d'accord? Mais ils considèrent, parce que le Rambam rapporte qu'ils sont idolâtres parce qu'ils croient ils ont divisé la divinité en trois, d'accord? D'accord. Maintenant, le Rajba et le oui, eux rapportent quoi en réalité? Que ils ont, bien qu'ils aient rentré des idoles dans leurs églises, d'accord, à l'origine des idoles païennes. Et bien qu'ils croient et qu'ils ont rendu saints certaines idoles païennes, eux-mêmes croient en Dieu. Donc on ne peut pas réellement les considérer comme étant des idolâtres. Maintenant, du fait qu'il y a un safek, à ce niveau-là, parce qu'il y a un débat entre les décisionnaires à ce sujet, et que halakha le maasé, pour la majeure partie des décisionnaires, on suit l'avis du Rambam, d'accord, on ne répond pas « Amen » à une bénédiction récitée par un catholique. Mais alors que les plus bons répondent « Amen ». Et de ce fait, il faut bien comprendre que nous, quand on ne se comporte pas bien, nos mérites à nous, d'accord, qu'on n'a pas mérité, ils vont ailleurs. Nous, on appelle ça des mitzvot, chez les musulmans, ils appellent ça des chassaniot. Hassan, ça veut dire bonne action. Ou Hussein, comme vous préférez, selon l'accent. Welcome. Maintenant, par rapport à ça, on va terminer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'une personne, en réalité, donc, que nous dit le Zohar Hadash, Megillat Rout, lui dit une chose extraordinaire. Si on a le mérite de faire les mitzvot, chaque mitzvah, on crée un malach qui va prendre notre défense dans le ciel. Ça va être un ange positif. D'accord? Et si on a le mérite d'étudier la Torah, chaque lettre d'étude créera un ange qui nous aidera. Et dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. De ce fait, on voit quoi? On voit qu'à partir du moment où Dieu nous donne la Torah, on voit que chaque jour, quand on fait la Torah, on fait les mitzvot, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, on crée des mondes spirituels. On crée des malachim qui sont des créatures, qui sont là pour faire grandir le monde et agrandir le mérite et dévoiler le commandement divin. Quand on dit les karazé, elze, vahamar, dans la Hamida, ils s'appellent les uns et les autres et ils disent kadosh, kadosh, kadosh. Ils disent que Dieu est saint, d'accord, dans toutes ses dimensions. Ça veut dire quoi? On parle des malachim ici. Que les malachim, chaque jour, ils prient Dieu pour que Dieu se dévoile à eux. Dans la Masechet Rabbim, on rapporte qu'un jour, Dieu, à force que les malachim fassent les filotes, il a dit, écoutez, vous voulez que je me dévoile, je vais me dévoiler à vous. Mais le monde n'est pas encore prêt à mon dévoilement. Et Dieu en dit qu'il a dévoilé une partie de sa présence divine équivalente d'un petit doigt. Tous les malachim ont été consumés sur place. Et après, il les a tous recréés en leur disant, vous voyez, le monde n'est pas encore prêt. Donc en réalité, tous les malachim qu'on est en train de créer dans le ciel sont en train de prier Dieu de ramener la Géoula, la délivrance dans le monde. Oh, c'est notre job. Donc de ce fait, c'est en ça qu'on doit être joyeux. Et chaque jour, donc, on renouvelle notre alliance avec Dieu. Chaque jour, on fait le kinyan avec Dieu. Mais au moment de Shavuot, on renouvelle notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Raison pour laquelle on ne dort pas de la nuit, parce que les Israël ont dormi, veille du matin de Torah. Et nous, pour montrer qu'on est impatients, bah, au Hachem, on ne dort pas pour faire le tikkun. Les Israël qui ont dormi. On dit que, du fait qu'ils aient dormi, les Égyptiens qui étaient avec eux au moment du matin de Torah, et qui sont tous convertis, ont vu que les petits Israël n'étaient pas très motivés pour recevoir la Torah. Donc, c'est ce qui les a motivés à faire la faute du veau d'or. Oh. Donc, s'ils n'avaient pas dormi, peut-être, je dis bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu la faute du veau d'or. Donc, de ce fait, on ne dort pas, sort de Shavuot. Le problème qu'il y a, comme il y a une partie du Tikkun qui a été rédigée par Zvi Shabtai, nos frères Ashkenaz, ils ne font pas le Tikkun premièrement, donc eux, ils étudient le Talmud, ils ne suivent pas les avis kabbalistiques. Parce que chez eux, ils ont eu un problème à ce niveau-là, et que chez eux, on n'étudie pas la Kabbalah jusqu'à qu'on ait 41 ans, qu'on soit marié, qu'on ait eu un garçon, une fille au moins, en tant qu'enfant. D'accord? Pour être sûr que la personne soit équilibrée, à ce niveau-là. Donc, maintenant, et encore, et avec ça, des fois, ça ne suffit pas. Donc, on voit quoi en réalité, Bezrat Hashem? On voit que là, on se prépare à Shavuot, Baruch Hashem, que c'est un très très grand moment, qu'au niveau spirituel, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se créer, et que chaque année, on est en train de revivre le Mahamad Har Sinaï, à un tel point qu'on dit que si un homme, il va faire une sieste l'après-midi, qui étudie le Tikkun le soir de Shavuot, qui est Moed, qui, à partir de Chatzot Alayla, il arrête de manger, il ne fait que boire du café, du thé, de l'eau, d'accord, pour être en forme jusqu'au Netz, et qui prie au Netz, et qui aille au Mikvé avant la Tfila, d'accord, il peut arriver au Keter à Torah, qui est le niveau le supérieur, au-delà de Malchut Shiva Malchut. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est marrant parce que j'ai donné un cours hier à des femmes qui m'ont posé la même question. Et les femmes? Alors, je terminerai là-dessus. D'accord? Donc on voit qu'on fait un véritable tikkun. Et en étudiant le tikkun de Kriyat Moed, en ne dormant pas de la nuit, et en ne mangeant plus, en se contentant de boire à partir de Chatzot Alayla jusqu'au Netz, d'accord? On fait deux fois la réparation d'un tikkun karet. On fait deux tikkun karet. Ça veut dire quoi? Les fautes pour lesquelles on est retranché du clan Israël, il y en a énormément, des fautes pour lesquelles on aurait pu être retranché. On est tous appelés à faire ce type de faute-là, d'accord? Rabbin par rabbin, tout le monde, on peut faire une faute, ou dans notre jeunesse, on peut avoir fait une faute pour laquelle on est chayav karet. Je n'en ai pas d'exemple, parce que quand j'ai donné des exemples le soir, les gens étaient choqués. Donc, on est chayav karet, on fait ce soir-là la réparation pour deux fautes, pour deux chiyuv karet. De la même façon, quelqu'un qui étudie la Torah sans manger, ou qui étudie la Torah sans parler, il faut aussi un tikkun karet. Et ça, chaque jour de l'année. Mais sur cette voie, on peut en faire deux. C'est vachement bien. C'est un truc que c'est bon à savoir.
C'est un tikkun karet, c'est-à-dire un tikkun...
On répare une faute pour laquelle on est chayav karet dans le ciel.
Mais une faute ou un type de faute?
Non, une faute.
Une faute. C'est-à-dire quelqu'un qui a été mechalel Shabbat une fois, il ne répare pas toutes les fois où il a été mechalel Shabbat.
Non, il répare pas une fois. Maintenant, on dit quoi? Attendez. Alors, on termine. On termine. Il y a un des maîtres de mon père, d'accord, et de mon grand-père, le Rav Amiassa Cohen. Alors, je sais, c'est un nom que vous n'entendez pas souvent, malheureusement. C'était le grand rabbin de Tunisie, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui est un très grand Talmid Chacham, qui a écrit à lui tout seul une quarantaine de shoutim. On n'en parle pas, c'est pas grave, il les a à la maison. Alors, on voit quoi? Le Rav Amiassa Cohen rapporte, c'était un très très grand Talmid Chacham, d'accord. Il rapporte une chose extraordinaire, il dit qu'un rave, le rave de la Kihila, ou le rave de la ville, s'il ne dort pas de la nuit et qu'il fait le tikkun comme il faut, d'accord, il fait le tikkun pour toute sa Kihila. Oh. Hein? Sur des enseignements kabbalistiques. Hein? J'explique, hein? C'est à peu près la même idée que le Hérouf Tachemin. On est sommaire sur le Hérouf du Rav. Mais attends, ça ne veut pas dire si le Rav il fait la veillée, nous on ne fait pas la veillée. C'est-à-dire que le Rav, lui, en veillant en étudiant la Torah, hein, d'accord, que ce soit un Rav Ashkenaz ou Sepharad, qu'il fasse le Tikkun ou pas, que ce soit son Minag ou pas, en veillant toute la nuit, en étudiant la Torah toute la nuit, il fait le Tikkun pour toute sa Kihila. Donc maintenant, si c'est un Gdol Israël, on va dire comme le Rav Chaim Kanievski, à qui se rattache tout le clan Israël, d'accord, ou le Rav Steinman, ou le Rav David Abou Khatsera, ou Sera Banimla, ils font le tikkun pour tout l'ensemble du clan Israël. La différence qu'il y a, c'est que eux, ils font pas le tikkun pour une faute. Ils font un tikkun pour l'ensemble des fautes. Et ça, c'est possible que le soir de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel dévoilement de l'énergie divine dans le monde ce soir-là, qu'il y a un grand chesed qui se crée. Il suffit juste que le Rav ait cette kavana. Oh. Et ça, c'est par rapport aux enseignements du soir. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, à travers les épreuves de la grotte, il a fait le tikkun pour toute sa génération. Il a fait le tikkun. T'es assis ou t'es pas assis? Il est resté combien d'années, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte?
13 ans.
Mais à la base, combien d'années? Au départ, il est resté une 13e année, parce que quand il est sorti de la grotte, avec son fils, ils ont vu des gens qui ont abandonné l'étude de la Torah pour le travail de la terre, d'accord? Et le monde a commencé à brûler autour d'eux. En plus, c'était un Shabbat. En plus, c'était un Lag BaOmer. D'accord? C'était un Shabbat et il y avait un juif qui travaillait la terre ce jour-là. Donc, Chlet, le feu, il est descendu. Et une Bat Kol qui est sortie. Elle dit, vous êtes sortis pour brûler mon monde. Retournez dans la grotte encore pendant un an. Donc, l'Agzera qui avait, donc, la vie de peine de mort qu'il y avait sur Rabbi Shimon Bar Yochai et pas sur Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il n'était pas obligé d'aller avec son père. Il a un très grand niveau, lui. Ils sont restés 12 ans réellement. Ils étaient obligés de rester dans la grotte. On dit qu'à travers le tikkun des 12 ans, chaque année, il faisait la réparation pour. Hein? Pour 2000 élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que les élèves, ils étudiaient en binôme. D'accord? Donc c'était pour 1000 binômes, 2000 élèves. Au bout de 12 ans, on arrive à quel chiffre? 24 000. Il a fait le tikkun de tous les élèves de Rabbi Akiva.
Après, ils sont morts.
À travers l'amour. Hein? De leur prochain.
Ils étaient déjà morts.
Ils étaient déjà morts. Mais il a réparé leur faute.
Il
a réparé leur faute. Hein?
Il est retourné pour réparer quoi?
De quoi?
Il est retourné pour réparer.
Parce qu'ils sont. Ils se sont. Entre eux, ils se sont dénigrés les uns les autres. Et on dit que l'amour que Rabbi Eleazar a eu pour la Torah de son père et pour son père, et de ne pas avoir accepté de se séparer de son père, et que le père n'ait pas accepté que son fils soit séparé de lui, de l'amour qu'ils ont eu l'un pour l'autre, et que les quatre autres élèves de Rabbi Akiva sont restés à distance et ont continué à étudier pour protéger Rabbi Shimon Bar Yochai de l'amour qu'ils ont fait, dont ils ont fait présence les uns pour les autres, ça a fait le tikkun de la faute qu'ont fait les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ne se sont pas aimés entre eux.
Pourquoi le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit?
De quoi?
Pourquoi si le tikkun a été
ouais.
Pourquoi le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit? Enfin, sauf s'il y a d'autres raisons, évidemment, je pense qu'il y a d'autres raisons. Mais
il faut que je les voie un maximum.
Dans laquelle on est, c'est la sinat rinam.
Hein?
La galoute dans laquelle on est, c'est la sinat rinam.
Ouais,
c'est
en partie.
Le kavod qu'ont eu les amis. Ouais. Aussi, il a fait ce tikkun là.
Non, on dit qu'il a fait le tikkun des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Le Beit HaMikdash, il n'a pas été détruit uniquement à cause des 24 000 élèves de Rabbi Akiva.
Mais est-ce que la 13e année, il a fait le tikkun de quoi?
Hein? La 13e année, il a fait le tikkun de l'amour qu'il doit porter à l'éternel et à son prochain. Parce que quand on aime son prochain, on aime l'éternel. On dit que quelqu'un qui parle mal de son prochain, il parle mal de Dieu, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand tu dénigres ton prochain, tu dénigres l'image divine. D'accord ? Non, attends. Non, pas du tout. 13e année, Gématria de quoi ? Ahava. L'amour. Tout le lignan de Matan Torah du Arsinaï que Dieu nous a rapproché de lui, c'est par amour. 13. Ahava. C'est bien. C'est aussi la Gématria de Echad, Dieu est unique. Donc quand on fait la preuve d'amour vis-à-vis de son prochain, on arrive à s'unir avec Dieu. Hein? Les femmes, c'est la même chose. C'est la même chose. La femme a l'obligation de. Quand on fait schéma Israël, on s'unit à Dieu. De quoi? Oh! Les femmes! Alors, justement, les femmes, elles sont mises à l'honneur le soir de Shavuot, mais elles ne le savent pas.
En faisant le gâteau.
Réellement. Non, réellement. On voit que dans le Tikkun, à la fin du Tikkun, on étudie Megillat Ruth. D'accord? Megillat Ruth, c'était la princesse héritière avec sa sœur. D'accord? Du roi des Philistins. Hein? Les Moabites, excusez-moi. C'était la princesse de Moab. D'accord? Donc, elle, c'est une princesse. Ok? En fait, parce que c'est sa sœur après qui a épousé le roi des Philistins. Donc, en réalité, on voit quoi? On voit que elle va venir en Israël. Elle va vivre la famille. Elle va pas vouloir se séparer de sa belle-mère, qui est veuve et pauvre. Elle va aller ramasser le leket, donc la tzedaka qu'on donne aux pauvres. D'accord? Il y a trois bouts de blé qui tombent au sol. Le troisième bout, elle a le droit de le ramasser. D'accord? Donc la troisième gerbe, elle a le droit de la prendre pour elle. Elle attend, elle est comme ça, elle vit de la tzedaka. Elle va faire du pain pour ramener à Boaz, pour le charmer. Pour réussir à aller avec Boaz, pour donner une descendance à la famille de sa belle-mère. D'accord? Elle va lutter, elle va se convertir, elle va vivre dans la pauvreté alors qu'elle était princesse. Et à la fin, Boaz va finir, c'est le Dolador, le grand juge rabbinique de la génération, d'accord, par établir une halakha qu'il était interdit d'épouser un Moabi, mais pas une Moabite. Donc un homme de Moab, mais pas une femme. Et de ce fait, Boaz pourra épouser Ruth. Il va aller avec elle qu'un seul soir. Il va mourir. Ruth va tomber enceinte ce soir-là. Et elle va élever ses enfants tout seul, dans le Derech HaTorah. Route. Oui ou non? Et de elle va descendre, c'est l'arrière-grand-mère d'Elda Mener quand même. Et on en parle ce soir-là. Pourquoi on en parle ce soir-là, Dafka? Parce qu'on voit par la Messiroute d'une mère d'Israël, Ruth à Moabit, ça reste une des mères d'Israël. Donc on voit par la Messiroute d'une femme d'Israël, Baruch HaShem, son envie de faire la Tzniout, d'élever ses enfants dans la Torah, et de respecter la Halakha comme il faut, parce qu'elle a respecté la Halakha de façon exceptionnelle, on voit que grâce à elle, le clan d'Israël pourrait être libéré. Pourquoi? Pourquoi on étudie l'histoire de Ruth? Parce que de Ruth descend David, et de David va descendre Mashiach. Et que toute l'histoire de Shavuot, de renouveler notre alliance pour faire la Torah, pour créer des anges, pour créer des mondes supérieurs, c'est pour ramener la Géoula dans ce monde. Et la source de tout ça, pour nous, aujourd'hui, c'est Ruth. Donc on en parle le soir de Shavuot. Donc la femme, comment elle fait son tikkun? On dit que l'homme, physiquement, comment il renouvelle son alliance avec Dieu? À travers, au moment de sa naissance, à travers la Brit Mila. La fille, elle n'a pas ça. On la nomme aussi Sefer Torah, c'est tout. Elle a quoi, la fille? Elle a un autre truc toute sa vie qui est un peu plus compliqué que l'homme. Elle a les lois de la Tzniout. Un homme, pour un homme, être tzanoua, il met une chemise, il met un pantalon, c'est pas compliqué. Une femme, elle doit se couvrir la tête. Alors qu'elle mette un kissou roche, un foulard ou une perruque, je peux vous assurer, c'est Shranat Amamout. Ça, c'est premièrement, surtout quand on est en Israël. D'accord? Elle doit s'habiller de noir, elle doit faire attention comment elle parle, elle doit faire attention comment elle se comporte, etc. Elle a l'idée d'être tzniout, la femme. Quand elle fait ça, c'est à travers son physique qu'elle a un renouvellement constant du kinyan à Torah qu'elle fait vis-à-vis de Dieu. À travers sa tzniout. Sa façon de parler, sa façon de se vêtir. C'est encore mieux que ça. Il y a le Midrash qui nous rapporte. Et le Chazonish, il rapporte très bien ces Midrash, on le connaît tous, Baruch HaShem. Que c'est à travers les perles de sueur des mères d'Israël que chaque perle de sueur à Kadosh Baruch Hu la garde dans le ciel pour la refaire descendre au moment de la venue messianique dans ce monde sous forme de rosée, et c'est la rosée qui va descendre dans ce monde pour permettre le triat hametim, la résurrection des morts. C'est quoi? C'est une image. C'est pour dire par le mérite de la pudeur des mères d'Israël, et par le mérite de l'éducation que vont les mères d'Israël à leurs enfants, à travers la Torah, les mitzvot et la tzniout, on aura la Géoula dans ce monde. Je termine. C'était bien?
Ouais.
J'ai répondu à votre question. Bon, voilà.
En fait, les femmes, les sortent de Shavuot, du coup, elles font rien, en fait.
Elles peuvent étudier.
Elles ça en soi.
Elles peuvent étudier le tikkun, bien sûr. Alors, on va terminer là-dessus.
On ne veut pas veiller.
Non, vous n'avez pas l'obligation de veiller du tout.
Le fameux tikkun dont vous
parlez. Hein?
Le fameux tikkun dont vous avez parlé.
Voilà. D'accord, le fameux tikkun. Maintenant, quand on fait le tikkun, entre guillemets, on ne dort pas de la nuit, il faut arriver en forme à la tfilal, pour les hommes. Donc, on boit le café, le thé, on se repose l'après-midi. C'est ce qu'il y a de mieux. Si on sent qu'on va flancher, ça c'est un grand yétsara. Il y en a qui disent, on va dormir, et on reviendra pour la tfilal plus tard. On voit ça dans beaucoup de communautés. D'accord. C'est quelque part un petit yétsara. C'est un petit yétsara. Maintenant, il faut voir, il faut y arriver. On peut y arriver. Les générations avant nous y arriver. Nous, on y arrive très bien. Il faut y arriver. Mais Zratachem. Donc, il faut se préparer. Une petite sieste avant la veille. Maintenant, pour les femmes, elles n'ont pas l'obligation. Maintenant, il faut savoir une chose. La femme, elle n'a pas l'obligation de prier. Elle n'a pas l'obligation non plus. Elle n'a pas l'obligation. Elle a l'obligation des brachot du matin. L'obligation de dire Shema Israël. D'accord. Maintenant, il y en a qui disent, selon certains avis, elle ne fera pas les brachot sur, avant le Kriyat Shema. Ce n'est pas notre coutume en Afrique du Nord. C'est un avis du Rav Ovadia Yosef. La femme, elle peut faire les brachot avant le Kriyat Shema. D'accord. Du Yotzer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On doit quelle obligation de faire le Kriyat Shema, etc. Maintenant, elle n'a pas l'obligation de faire la midot. Maintenant, qu'est-ce qu'on rapporte? On rapporte une femme quand elle étudie la Torah alors qu'elle n'a pas l'obligation. La midot.
Une amida par jour?
Non, on dit que c'est bien. C'est pas obligé. C'est bien.
Mais il n'y a pas Rambam et Ramban qui ont mis que c'est une obligation parce qu'elle doit être dans la kachat rachamim comme n'importe qui.
Même deux, Sharit et Mincha dans la même.
Ok, alors à la Khalema, c'est sur le Rof des Poskim, la femme n'a pas l'obligation. Du fait qu'il y ait certains dictionnaires qui estiment qu'elle aurait peut-être une obligation pour faire ce qu'on appelle Bakashat Rachamim, alors ils estiment qu'elle fera au moins une amida durant la journée. C'est bien, c'est pas obligé. Deuxièmement, il faut savoir que Bakashat Rachamim, d'accord, quand une femme, elle s'arrête devant sa mezouza, et qu'elle prie Dieu, pas le mérite d'être tzadikim, ou qu'elle allume une bougie, et qu'elle dit Bisrout, Rabbi Mir, Baalanes, d'accord, à un tel point, que Alakha l'Emaasé, pour Shabbat, Alakha l'Emaasé, Shabbat, une femme qui n'a pas l'habitude de prier, mais qui se lève le matin, qui fait les brachot du matin, et qui met la main sur sa mezouza, comme faisaient toutes les grands-mères. Elle ne faisait pas ça pour rien. La mezouza, quand on met la main sur la mezouza, il y a une très grande kedusha qui se crée. Surtout quand c'est la femme qui le fait. Oh. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle ne faisait pas ça pour rien. Attendez. Écoutez. Alakha l'Emaasé, on dit qu'après, à partir du moment où on a fait la amida de Shacharit Shabbat, on ne pourra rien consommer sans avoir fait kidouche. De ce fait, une femme qui ne sait pas prier, mais qui s'est levée le matin, qui a fait ses brachot du matin, ou qui ne sait pas faire les brachot du matin, mais qui a dit « Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, tu m'as donné la vie, et par le mérite de Rabbi Meir, et par le mérite de Rabbi Akiva, les prières que faisaient toutes nos grands-mères, entre guillemets, que font encore ma mère. » Alors que ma mère, Dieu bénisse, elle ne sait pas trop amidot qu'elle fait par jour. Ben pour Hachosef, c'est une usine à prière. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... c'est une mère tunisienne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où elle a mis sa main sur la mezouza, qu'elle a fait une prière à son niveau à elle, le Shabbat matin, elle ne pourra rien consommer sans avoir kiffé qui douche. Incroyable. D'accord? Donc on voit que ce qu'on appelle une tfila chez la femme, ce n'est pas forcément le nosar de la tfila pour l'homme. Maintenant, le dernier point. Attendez. Il y a du monde? Le dernier point, parce que ça, c'est le point le plus sympa. On dit que bien que la femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, et qu'elle n'a pas l'obligation de faire la prière, quand les enfants ils voient la mère qui étudie la Torah alors qu'elle n'a pas l'obligation et qui fait la prière alors qu'elle n'a pas l'obligation, on dit qu'elle a un très grand mérite. Pourquoi? Parce que les enfants ils vont dire papa il fait parce qu'il est obligé. Mais maman elle n'est pas obligée. Donc forcément c'est un kiff. Et c'est comme ça qu'elle rentre l'amour de la Torah et de Dieu dans le cœur de ses enfants. Quand elle va faire les brachot, quand elle va étudier la Torah et quand elle va faire sa prière. Au moins une amida par jour. C'est bon? C'est joli? Voilà.